Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « Sur le chemin des étoiles, navigation traditionnelle et peuplement des îles du Pacifique » de Éric Comte, publié par les éditions Au vent des îles, lu par Lucille Bambridge.
Lorsque, le dimanche de Pâques 1722, l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen aborde Rapa Nui, qu'il baptisera du nom de la fête chrétienne, son étonnement est grand d'y découvrir des hommes. D'autant plus que ces derniers ne possèdent alors que de frêles esquifs à balancier, incapables d'affronter la haute mer. Comme lui, les navigateurs européens, lancés dans l'exploration du grand océan, furent fort surpris de rencontrer des hommes sur les îles les plus orientales du Pacifique, l'actuelle Polynésie. À plusieurs milliers de kilomètres des continents, certaines de ces îles, l'archipel de Hawaï ou l'île de Pâques, comptent en effet parmi les terres les plus isolées au monde. À vrai dire, ils avaient peine à concevoir que des sauvages, sans aucun instrument de navigation et possédant des embarcations qui leur paraissaient bien médiocres, aient pu les devancer dans l'exploration du plus grand océan du monde. Aussi, lorsque les Espagnols découvrirent les Marquisiens en 1595, le chef pilote de l'expédition, Pedro Fernández de Quirós, estima les indigènes trop dépourvus de compétences pour ne pas être venus des proches rivages de la fabuleuse Terra Australis, le continent austral si prisé des cosmographes de la vieille Europe. Continent dont James Cook démontra qu'il n'était qu'une fable. Quirós envisageait aussi qu'ils aient pu dériver accidentellement ou que leur présence sur ces îles était due à un miracle. Relation brève. Difficulté de communiquer explique que les capacités des pirogues et l'efficience des techniques de navigation furent souvent sous-estimées lors des premiers contacts. Bien différente fut l'opinion de ceux qui, tels Cook ou Domingo de Buenechea, prirent la peine et le temps de l'observation. La beauté physique, l'étrangeté des coutumes de ces hommes suscitèrent les spéculations et les hypothèses parfois les plus imprudentes sur leur origine. D'où venaient-ils? Comment, ne disposant que de simples outils en pierre, avaient-ils pu construire des navires capables de longues traversées hauturières? Par quels moyens, sans carte, ni compas, s'étaient-ils guidés sur les immensités océaniques? Autant de questions auxquelles, dès leur rencontre avec les Polynésiens, les Européens entendirent donner les réponses les plus variées. Ces hommes n'étaient-ils pas les survivants d'un ancien continent englouti dont seules émergeraient encore les montagnes, les îles actuelles? En fait, cette hypothèse procède, en partie, des explorations de Cook. Le grand navigateur ayant montré que l'Antarctique, dont il avait deviné l'existence, ne pouvait être confondu avec la Terra Australis. Certains imaginèrent que si le fameux continent austral ne pouvait être retrouvé, c'est qu'il avait disparu. L'idée fut formulée dès 1772 par Jules Crozet, pour d'autres raisons que celles évoquées ci-dessus, puis en 1778 par J.R. Forster, compagnon de James Cook, dans son deuxième voyage. Pour lui, cet immense continent communiquait avec l'Asie, d'où serait venue sa population. Au XIXe siècle, elle fut reprise par le consul Jacques-Antoine Mourenhout, pour qui ce continent était peuplé d'une race océanienne apparue sur place. En fait, selon lui, c'est même à partir de cet ancien continent qu'une partie de sa population, chassée par le cataclysme supposé l'avoir détruit, aurait peuplé les zones périphériques, la Malaisie et jusque Madagascar, où se rencontrent des langues ayant des affinités avec celles parlées par les Polynésiens. Laissons-lui la parole pour justifier son hypothèse, typique de l'opinion ayant cours à l'époque, positive à propos des Polynésiens et dépréciative sur fond d'un racisme certain, envers les autres peuples océaniens. En résumé, s'il est vrai que les foyers des populations puissent se reconnaître à la beauté et à la perfection corporelle de chacune des familles qui les constituent, et si chacun de ces foyers est le centre d'une langue mère, d'où sont descendus différents idiomes ou dialectes, il est certain que les îles polynésiennes sont le foyer de la grande famille malais. Car, dans les îles polynésiennes seules, cette race joint a une haute stature et a de belles proportions, une régularité et une beauté de corps qui ne se trouvent nulle part dans les îles malais, où, comme le langage, comme les habitudes et comme les mœurs, les traits diffèrent et semblent partout corrompus par le mélange d'espèces moins belles et d'idiomes moins parfaits. Au début du XXe siècle, la théorie du continent disparu fut reprise et magnifiée par un prétendu colonel de l'armée anglaise des Indes, James Churchward, dont le fameux continent Mu, sorte d'Atlantide du Pacifique, à la brillante civilisation détruite par un formidable cataclysme, excita bien des imaginations. De l'imagination, à vrai dire, le militaire n'en manquait guère, car, contrairement aux autres partisans du continent disparu, il ne fondait pas son hypothèse sur des considérations géographiques ou géologiques, fussent-elles erronées, mais sur l'interprétation de certains documents de lui seul connus. Churchward écrivit 5 ouvrages sur la question, dont le premier, The Lost Continent of Mu, le continent perdu de Mu, publié en 1926, jetait les bases d'une saga quelque peu délirante, que les suivants viendront encore enrichir et développer. Il disait avoir été instruit des mystères de Mu, en 1874, lors de son séjour en Inde, par l'un des derniers initiés encore vivants de la secte des Naakals, dont l'origine était contemporaine de l'engloutissement de Mu. Ce grand prêtre aurait apporté de Birmanie des tablettes écrites par des Naakals, héritiers des connaissances de Mu, et aurait enseigné à Churchward comment les déchiffrer. Sa description de la civilisation de Mu se fonde aussi sur la découverte au Mexique, en 1924 par William Niven, de 2600 tablettes d'argile portant des inscriptions écrites, d'après Churchward, dans la langue de Mu, et que lui seul aurait réussi à traduire. Mu ne serait rien de moins que le berceau de l'humanité, antérieur même à la mythique Atlantide. Tous les écrits prouvent que le grand continent a existé, et que ce fut là que l'homme fit son apparition sur Terre, il y a 2000 ans. Le continent de Mu n'était autre que le jardin d'Éden de la Bible. De cet Éden, Churchward donne une description assez précise, et en figure même une carte que les lamas d'un temple de Lhasa lui auraient montrée durant l'un de ses voyages au Tibet. D'est en ouest, Mu s'étendait sur 10 000 km et était constitué de 3 terres séparées par d'étroits chenaux. Son extrémité nord, Hawaï, était distante de 5 000 km de sa limite sud, correspondant à une ligne joignant l'île de Pâques aux îles Fidji. Ce paradis originel, fertile et propice à toutes les cultures, se présentait comme une immense plaine vallonnée, au climat tropical et à la végétation luxuriante. Lorsqu'il apparut sur Mu, il y a 200 000 ans, l'homme était blanc. Churchward expliquait à sa façon la constitution des dites tribus, équivalent des races, qui peuplaient le continent au moment du cataclysme. Les populations s'étaient tellement augmentées que la place manquait. Certaines familles s'en allèrent dans des pays lointains, où elles furent isolées du reste de l'humanité. Dans ces établissements, les groupes étaient si solitaires que parfois, les frères devaient épouser leurs sœurs, afin de pouvoir perpétuer la race. Ces mariages consanguins ont donné un type commun, dans lequel les caractéristiques morphologiques, la forme de la tête, les traits, ont eu pour principale cause la consanguinité. Mais le climat, la température et l'alimentation ont contribué à accentuer le type, qui est devenu une race.
Vous venez d'écouter un extrait de « Le chemin des étoiles, navigation traditionnelle et peuplement des îles du Pacifique » de Éric Comte, publié par les éditions Au vent des îles, lu par Lucille Bambridge. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures du Pacifique et les rencontres hors série au pied du Banyan. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maururu et Yaorana.